Écoutez Entrée de secours chaque jeudi dès 16h. En plus des actualités musicales de la ville de Québec, découvrez les dernières sorties. Entrée de secours, c'est le moyen de sortir de sa bulle. À travers les inspirations de votre animateur, passez du contemporain au hip-hop, comme de l'électro à l'indie rock. Entrée de secours, votre heure de répit hebdomadaire sur les ondes de CKIA 88.3.
L'opération panier de Noël du Pignon Bleu bat actuellement son plein en partenariat avec Métro Ferland. Cette initiative de chez nous vise à offrir cadeaux et denrées à 200 familles de Québec qui en ont bien besoin, particulièrement en cette année difficile. Le Pignon Bleu vous invite à poser un geste d'entraide en contribuant en ligne à pignonbleu.org. Plus que jamais, votre don fait la différence. Merci aux donateurs et partenaires qui rendent possible cette belle chaîne de solidarité. L'équipe du Pignon Bleu vous souhaite de très joyeuses fêtes.
Ici et ailleurs, votre émission Voyage et Découverte vous propose
des échappées belles au Québec et ailleurs dans le monde.
Des aventures captivantes, des idées intéressantes pour vos escapades.
Des invités aux expériences variées et inusitées.
Laissez-nous vous surprendre et partons ensemble à la découverte du monde.
À l'émission Ici et ailleurs, les jeudis de 10 à 11h, en rediffusion les lundis à 11h. Voyage, voyage!
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici vos nouvelles du mercredi 30 novembre 2022. C'est le coup d'envoi de la campagne des fêtes de la YWCA de Québec. L'organisme aide les femmes, leurs enfants et les jeunes filles. En ce temps des fêtes, la Y souhaite que chaque personne ait un toit sous lequel vivre et de quoi se nourrir, que chaque enfant puisse aller à l'école le ventre plein et que les jeunes filles puissent s'épanouir en participant à des camps éducatifs. Cette année, l'impact de votre don sera doublé grâce au soutien de Beneva et d'une généreuse donatrice. Par exemple, si vous donnez 100 $ pour les lunchs et les transports d'un enfant, cela veut dire qu'un deuxième enfant en bénéficiera. Pour donner, rendez-vous au ywcaquebec.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Donner, contribuer ». Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, Rose du Nord vous invite à un après-midi sous forme de café-discussion sur les violences institutionnelles vécues par les femmes à l'aide sociale. Une collation sera disponible sur place. Le collectif vous invite également à créer des affiches et des bannières pour la marche organisée par le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale qui aura lieu le 6 décembre à midi au parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste. Toutes les femmes sont les bienvenues, que vous receviez de l'aide sociale ou non. Soyez-y dès 13h aux locaux de Rose du Nord, situé au 177 71e rue Est. Aujourd'hui également aura lieu une assemblée de cuisine au sujet de l'enjeu croissant du manque d'ateliers d'artistes à Québec. Le comité Atelier Rêve, composé d'artistes et d'artisans de Québec, vous invite à la Charpente des Fauves ce mercredi à 17h au 206 rue Christophe-Colomb Est. Cette rencontre informelle a pour but de rallier artistes, travailleurs culturels, politiciens et toutes les personnes intéressées à échanger sur des pistes de solutions et sur les besoins des artistes qui peinent à trouver des lieux de création stables et convenables. Le comité de lutte à la gentrification vous propose le visionnement d'un documentaire produit par Carole Lagagnard sur le processus de gentrification, quartier sous tension. En allant à la rencontre de Montréalais qui vivent la gentrification, qui la subissent ou qui en sont les acteurs, Quartier sous tension vise à dégager le visage humain du centre de Montréal et à mesurer l'impact de ces changements sur ses habitants. Une manière de marquer autrement le 375e anniversaire de la ville. Le visionnement du documentaire aura lieu au café Tintico, situé au 189 rue Hermine, ce soir à 19h30. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Que ça me fait plaisir. Mercredi 30 novembre, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver après une petite semaine. C'est même pas un congé. C'est dû à des problèmes techniques pour vous diffuser l'émission. Ceux qui regardaient via Facebook, vous voyez que j'ai changé de décor. Eh bien, oui, et j'ai dû changer de décor et d'ordinateur à la limite pour être capable de vous offrir aujourd'hui la meilleure des émissions possibles. D'ailleurs, ben, je vais vous parler de... Je vais vous mentionner les sujets dont on va parler aujourd'hui. On va recevoir dans les dernières 15 minutes de l'émission Steven Laperrière, qui est directeur général du Rapplic. Vous vous souvenez, on a parlé avec lui de façon régulière dans les derniers mois. Et là, ben, on va parler avec lui des difficultés à voyager en avion. Je parle pas de monter dans l'avion, je parle pas de s'asseoir sur un banc. C'est pas ces difficultés-là. Les difficultés, c'est d'avoir un fauteuil roulant qu'on peut encore appeler un fauteuil roulant à destination. Quelqu'un qui fait, je sais pas, moi, à Montréal, Toronto, il débarque de son fauteuil roulant à Montréal, il l'amène dans la soute, il l'amène à Toronto, arrive pour le reprendre à Toronto et il est scrap. Disons-le comme ça. Il est complètement démoli. Donc, on va, entre autres, parler de ça avec Steven Laperrière. On va aussi parler avec Martin Lalonde, qui est agent de défense collective des droits, porteur de dossiers en habitation et à la vie municipale. Montréal a récemment mis une politique métropolitaine d'habitation. Donc, ben, on va en discuter avec lui. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qu'il en retourne de cette politique-là dans la ville de Montréal. On devait s'entretenir avec Mir Abolfazi Mustafavi. Désolé, Mir, si je prononce mal ton nom. Mais avec lui, on devait parler des avancements d'un projet qui est déjà là, c'est-à-dire Mobilisig. C'est un projet qui date depuis des années. Donc, on a malheureusement pas pu faire l'entrevue plus tôt aujourd'hui parce que j'ai encore eu des problèmes techniques. Donc, Mir n'était pas disponible à ce moment-ci, en fait. Donc, ça sera que partie remise, on fera ça une autre fois. Mais, bien évidemment, on a toujours notre cher collègue Olivier Colondérame qui est là avec nous pour nous brosser un portrait de l'actualité des personnes handicapées. Salut Olivier, ça va bien?
Là, je reviens de dehors. Non, ça va moyen, on va dire. En tout cas, bonne chance à ceux et celles qui sont dehors, surtout s'ils ont des difficultés de mobilité. Petite neige qui se transforme en glace. Fait 400 mètres aller-retour à l'école, trois risques de chute. Faites attention.
Et le vent aussi aujourd'hui qui
et
est…
Et le vent. Et les automobilistes qui semblent ne pas comprendre que quand on roule dans une flaque, ben, voilà. Et donc, et tout ça va nous faire une belle glace ce soir. Donc, j'ai pas hâte.
Ben, ils annoncent quand même pas trop froid ce soir, donc on va croiser les doigts pour que ça soit circulable demain matin.
Oui, estacable, comme on dit.
C'est un nouveau mot que je connaissais pas.
Oh, ouais, j'aime ça inventer, oui.
J'adore ce mot-là. Bon, allons-y maintenant avec ton premier sujet.
Eh ben, écoute, je vais parler brièvement de ce que Mir venait nous parler. Mm-hmm. Donc, les suites de Mobilisig. Alors, je sais que Mir aimerait peut-être pas que je le dise comme ça, mais Mobilisig, c'est une ambition depuis effectivement, je pense, un petit peu moins de 10 ans. Donc, une série de recherches afin d'essayer de créer une forme de, on va dire, de Google Maps mieux fait.
Plus adapté, mettons.
Voilà, un Google Maps pensé piéton, incluant les personnes qui ont des limitations, donc notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Donc, le projet, la phase où ils sont rendus, ben c'est d'aller un petit peu plus loin, encore une fois. Encore une fois, dans le quartier Saint-Roch. Donc, une nouvelle phase d'expérimentation. Par contre, on en a parlé hier, c'est certain que là, en ce moment, c'est peu propice. Donc, on aura le temps d'en reparler puisque les expérimentations terrain risque plutôt de reprendre en avril-mai, puisque, comme on le sait, en mai, fais ce qu'il te plaît, mais en décembre, reste chez toi. Donc, donc Mir viendra nous en reparler.
Mais ce n'est que partie remise avec Mir.
Voilà, par contre, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, ben vous pouvez circuler l'information sur les réseaux sociaux. Je me rappelle notamment sur le site de l'organisme CAPVIH, qui s'écrit CAPVIH, donc C-A-P-V-I-S-H, qui l'ont publié sur leur Facebook. Je pense que tu fais partie aussi des gens qui ont redirigé cette annonce.
Exactement, sinon, oui.
Vous pouvez taper tout simplement mobile, M-O-B-I-L-I. SIG, donc comme un SIG, donc un système d'information géomatique là. Donc MobiliSIG, et avec MobiliSIG vous trouverez éventuellement son soir. Puis sinon, mais écoutez, on vous en reparlera certainement d'ici quelques semaines ou mois. Donc pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, y participer.
Premier sujet maintenant. Parfait. On y va avec le deuxième.
Ben, écoute. Moi, c'est une bonne nouvelle. Je suis allé regarder une petite présentation des travaux du tramway autour du Grand Théâtre. Et j'ai été ravi d'entendre le mot STAC prononcé à plusieurs reprises. Transport adapté, on va assurer une desserte en transport adapté. On y parle d'accessibilité des travaux. Donc, pour nos auditeurs et auditrices, comme je le disais ce matin à quelqu'un, que vous soyez pour ou contre les travaux, ils sont là. Il y en a déjà qui ont eu lieu, des travaux préparatoires devant chez toi. Il va y avoir encore d'autres travaux préparatoires. La grosse phase de chantier s'en vient. Donc, il y a des endroits où il va y avoir des travaux pour faire ce qui a été fait devant chez toi, c'est-à-dire vider le cœur de la rue de tout ce qui est des servitudes publiques, l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça, pour tout pousser sur les côtés pour pouvoir venir installer une dalle sur laquelle le tramway va circuler, pour que si jamais il y a une rupture, en fait, le tramway puisse continuer à circuler et que les travaux se passent à l'extérieur donc de la zone tramway. Et donc ensuite, il va y avoir de nouveau des travaux pour venir mettre les rails. Donc je vous invite à vous y intéresser, je vous invite à vous renseigner sur ces travaux qui s'en viennent. Et ne pas oublier, ça fait quelques années que dans les dépliants de la ville de Québec, quand il y a des chantiers, bien, on peut trouver un numéro de téléphone. Là, j'en ai un sous les yeux. Réfection des saules Est et des zones pour de plus amples renseignements. Contactez Monsieur Normand Bédard, qui n'est pas de la famille de Michel, avec un numéro de téléphone et également appelez le 311 et également une petite partie personnes à mobilité réduite. Il y a un logo fauteuil roulant, mais ça s'applique à toutes les personnes à mobilité réduite, même une personne qui aurait une jambe cassée. Des fois, ça prend un mois et demi, un bassin fracturé. Appelez-les. N'hésitez jamais à vous signifier auprès des services de la ville quand il y a des travaux. On vous garantit rien, mais des fois, ça pourrait aider à ce que le stack se rende jusqu'à chez vous. Ça pourrait aussi vous aider à pouvoir tout simplement aller faire vos courses à côté ou prendre une marche, c'est-à-dire à pouvoir sortir de chez vous. Donc ça va être un des grands enjeux des 5 prochaines années.
Si les gens veulent avoir un numéro facile, vous appelez au 311, comme tu l'as dit probablement tantôt, oui. Et ils vont être en mesure de transmettre votre demande au bureau de projet qui, eux, vont vous rappeler et même potentiellement vous donner un numéro de téléphone pour les rejoindre directement pour éviter le délai que donne le fait d'appeler le 311. Oui. Donc, c'est important de savoir ça parce que, c'est comme tu l'as dit, ça s'en vient vite, oui. Ça s'en vient gros aussi.
Oui,
rapidement. Parce que j'étais avec toi dans une réunion ce matin et on parle de 5 ans. Là.
On parle de 5 ans, puis ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes savent que des travaux, il y en a tout le temps, la saison des cônes oranges, pas ceux de la SQDC, mais ceux des chantiers. et donc, je pense que les grands chantiers qui s'en viennent, c'est une occasion de pouvoir justement venir améliorer cette question de l'accessibilité des travaux, qui n'est pas qu'ici. Il y a plus de 10 ans, il y a une fiche qui avait été créée avec le milieu communautaire et la Ville de Québec pour améliorer l'accès des travaux, en prenant des références d'un petit peu partout dans le monde, en mettant à jour ce qui était déjà fait. Donc, c'est vraiment important. Tenez-vous au courant si le tramway passe devant chez vous ou proche de chez vous ou d'un endroit que vous fréquentez. C'est important de pouvoir signifier vos besoins. Il n'y a jamais une garantie que les besoins soient répondus, mais si on ne les signifie pas, disons que la garantie vient de couper. Donc, intéressant. Puis, allez voir les vidéos. Donc, des présentations sont en ligne de certaines zones. Donc, ça vous permet de voir un petit peu aussi comment ça se déroule, ces séances d'information et d'échange avec la population.
Comme troisième sujet, parce que c'est une chronique chargée aujourd'hui. On a du temps pour la faire et ça donne bien. Les sujets sont multiples aujourd'hui.
Oui, ben écoutez, c'est une nouvelle qui est tombée sur le site de Radio-Canada aujourd'hui, qui s'appelle « Le handicap d'un arbitre, les assurances et les 364 $ de Hockey Canada ». Donc, je suis pas un très grand fan ni de la télé ni du hockey, mais j'avais cru comprendre que dans les derniers mois, Hockey Canada a été écorné, peut-être même plus que les derniers mois.
Ouais, ouais, ils se sont mis dans le trouble, comme on pourrait dire,
oui.
Pour rester poli.
Et donc, c'est intéressant, c'est une vieille, vieille histoire, et c'est d'ailleurs ce que souligne le journaliste. C'est pourquoi reparler de cette vieille histoire. Donc, c'est un arbitre qui en fait a été blessé accidentellement par un joueur, donc il l'a fait tomber et la personne, ben il est tombé sur la tête, ben, un peu, tu me diras, comme notre ami Simon quand on avait visité l'amphithéâtre l'amphithéâtre de Québec. Par contre, apparemment, lui, cet arbitre là ben il salue grave blessure cervicale, des limitations qui ont envahi son quotidien. On lui a fusionné trois vertèbres cervicales, donc avec la rigidité, les douleurs que ça crée, et donc une personne qui, pour tout déplacement, est obligée d'utiliser des béquilles avec des douleurs chroniques dans le dos, dans le cou, plus capable de travailler. Et la réponse qu'il avait eue à l'époque de Hockey Canada, c'était c'est pas notre problème. Donc, ils lui ont envoyé, si je comprends bien, un chèque de 300 et un chèque de 64 $. Donc, je pense que c'est équivalent d'une paire de lunettes cassées ou quelque chose comme ça.
En fait, je te dirais à 300 quelques piastres, là, rendu à un certain âge, t'as à peu près une branche de monture. Là.
OK. T'as même pas ton 2-1. Donc, et là, ben. Comme souligne le journaliste, c'est que pourquoi en reparler? Ben parce que ce qui est ressorti de toute l'histoire qu'il y a eu autour d'une indemnisation que Hockey Canada a versée, j'ai plus le montant, mais c'est plusieurs millions de dollars. Donc on parle d'une poursuite. Hockey Canada, en mai dernier, donc mai de cette année, a rapidement réglé à l'amiable une poursuite de 3,55 millions, donc 3,5 millions de dollars, pour une présumée victime d'une agression sexuelle commise en 2018 par 8 hockeyeurs donc d'équipe Canada Junior. Mm-hmm. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, Hockey Canada a fait payer des cotisations d'assurance à toute la gang, à surcotiser les gens en prétextant qu'ils pouvaient les indemniser. Et le monsieur, malgré les poursuites juridiques, a jamais rien eu de mieux que son 364 $. Et donc, le questionnement, parce que c'est des choses qui sont difficiles à savoir, mais les fonds qui ont été connectés, qui étaient censés indemniser les gens, apparemment, ben là, ils ont indemnisé la plaignante. Mais on parle d'actifs à la fédération là, de hockey qui est passé de 28 à 153 millions de dollars, entre autres grâce aux surcotisations d'assurance et visiblement en n'indemnisant pas les gens. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a des personnes, le hockey est un sport que je n'ai pas pratiqué et je ne dirais pas que je n'ai pas eu la chance de pratiquer parce qu'apparemment c'est un sport qui crée beaucoup de blessures. Dans le cadre d'une discussion avec une personne, j'avais découvert la ringuette que je ne connaissais pas, mais qui est aussi un sport qui crée énormément de blessures, mais là plus je pense chez les filles que chez les garçons, alors que le hockey c'est chez les garçons plus que chez les filles. Mais donc c'est des sports de contact à haute vitesse où même tu peux te planter tout seul, c'est même pas une histoire de rentrer dans quelqu'un, tu peux tomber et tu vas vite et tu te blesses. Et donc Hockey Canada, et c'est un questionnement, Hockey Canada, tu sais, il dit, auront-ils, les prochains dirigeants auront-ils le courage de revenir en arrière et de faire amende honorable? Mais la question, c'est à toutes celles et ceux qui œuvrent dans le milieu du hockey amateur, feraient bien de vérifier l'étendue de leur couverture d'assurance personnelle. J'avoue que c'est un enjeu. Moi, ayant joué au soccer, je savais que j'étais indemnisé. Tu peux manger des coups quand même aussi, te péter la tête contre un poteau. Mais moi, à ma connaissance, les gens étaient indemnisés. là, ce que je me suis rendu compte à travers cet article, et on parle d'une personne, puis ça lui a coûté des dizaines de milliers de dollars de poursuites, là, pour rien. Parce que face à lui, il y avait une machine, OK Canada, qui avait largement l'argent requis pour ne pas l'indemniser. Je trouve que c'est particulier. Ça ressort à l'occasion de cette indemnisation qui, je pense, si j'ai bien compris, a été jugée malencontreuse, pour ne pas dire honteuse, l'attitude de Hockey Canada dans cette histoire de, enfin, dans cette indemnisation donc, d'une personne qui est présumée agressée sexuellement par 8 joueurs de l'équipe de hockey amateur. Ce qui est particulier, c'est de voir qu'en levant le couvercle, on se rend compte que y a tout plein de gens qui n'auraient pas été indemnisés. Donc, ça va peut-être être un des prochains dossiers de Hockey Canada de pouvoir se poser la question d'aller rembourser, dans le fond, toutes ces personnes qui ont été mal indemnisées alors qu'on a cotisé et même, de ce que je comprends, surcotisé les gens.
On continue avec la prochaine nouvelle. Moi, j'aime ça, mais... J'ai de très bons sujets cette semaine.
Écoute, celle-là, je viens de la voir. Pour moi, il y avait un lien. La Fondation des Canadiens pour l'enfance, je sais que je connais quelques personnes fans des Canadiens à en remplir leur appartement, donc qui aide la ville de Québec pour une nouvelle patinoire extérieure, donc qui vient d'être annoncée. C'est certain que la question que je te vois déjà qui brûle tes lèvres, sera-t-elle accessible? Eh bien, écoute, je vous l'annonce, je vais essayer d'avoir la réponse, parce que je pense qu'on en avait parlé récemment, la question de l'accessibilité, tu sais, des luges, para-luges, para-hockey. Mais en tout cas, faut une para-patinoire, là. Une paratinoire, tiens, on va l'appeler. Donc, une patinoire accessible. Je ne le sais pas, j'ai lu rapidement, je ne l'ai pas vu dans l'annonce. Mais je pense qu'effectivement, à Québec, des patinoires accessibles, pour faire du para-hockey, il n'y en a pas des masses, là.
En fait, à ma connaissance d'un gars qui ne patine pas dans la vie, sauf sur certains trottoirs de la ville, les patinoires en tant que telles sont bien accessibles. Parfois, c'est ce qu'on appelle des cabines de changement, si on peut dire, là où tu as tes bottes, tu enlèves tes bottes, tu mets tes patins puis tu pars. C'est, parce que dans ma tête de gars qui ne connaît pas ça, comme je dis, j'aime bien dire, c'est là qu'est le problème. C'est pas tant la patinoire.
Parce que moi, je sais que les patinoires, il y a toujours des fois des steps un peu plus hauts. Et puis après, il y a la question, c'est de la capacité à approcher, parce qu'une luge de hockey adaptée, c'est pas comme un joueur, là. Mm-hmm. Il y a quand même, faut la faire embarquer. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Puis au pire, s'il manque de l'argent, on demandera à Hockey Canada, qui semble assez ouvert à redorer son image en ce moment. En tout cas, je leur souhaite, pour ce que j'en ai compris, il y a quand même une sacrée côte à remonter. Mais ça n'existe pas, les cartus avec des patins?
Patins pour aller sur la glace, non. Mais pour aller dans la neige, oui.
Oui, un peu même genre de patins qu'on peut fixer sur un fauteuil roulant, je suppose, à l'avant,
ouais.
Ou sur les poussettes.
Oui, c'est un peu ça, oui, effectivement, oui. C'est un peu ce genre de truc. La roue est encore là, mais on fixe un petit patin très court aux trois roues d'un cartus, par exemple. Mais attends, je dis trois roues, c'est peut-être pas trois roues, c'est peut-être juste une.
Non, je pense que c'est la roue avant.
Oui, c'est la roue avant, ouais. Parce que c'est elle qui tape dans la neige en premier. Là.
Mais toi, tu voulais pas faire une course de bateau dragon jusqu'à Lévis en cartus?
Non.
Non, pas encore?
Non, moi Lévis, je te dirais que les gens qui sont là, tant mieux. Les gens qui réussissent à voyager, tant mieux. Mais en fauteuil roulant, aller à Lévis sur le fly, si je peux dire, très mauvaise idée. Très mauvaise idée.
Tu me vois venir, hein, ça fait le lien avec mon autre sujet, parce qu'à Lévis, il y a aussi un endroit où il ne faut pas aller, c'est à l'hôpital. Un article des poches de soluté en guise d'oreiller.
Ah oui, j'ai vu cet article-là.
Écoute, je trouve et je remercie Éric Gilbert qui me l'a fait suivre. Sinon, je l'aurais juste vu tantôt, sûrement en préparant ma chronique. Mais écoutez, un jeune homme... Samuel Bilodeau, qui rentre à l'Hôtel Dieu de Lévis. Donc, c'est une personne qui a accidenté de la route, qui est donc paralysée du torse aux orteils, qui rentre à l'hôpital donc avec des enjeux de santé. Là, on parle de forte fièvre, vomissements, puis des spasmes incontrôlables. Et donc, c'est une infection. Mais il raconte comment il a été reçu là-bas. Lui, il espérait aller à l'hôpital de Montmagny, donc qui semble, ce qu'il indique, donc un établissement qui est au fait des besoins des personnes blessées médulaires. Mais tu me racontais, Michel, tantôt que dedans, il y a des, pour toute personne en fauteuil roulant, il y a des bonnes pratiques. Il y en a qui sont particulières pour les personnes blessées médulaires, mais je dirais pas du gros bon sens, parce que cette expression gros bon sens, des fois, elle est dangereuse. C'est comme toi, tu es en train de te positionner pour monter un bateau pavé, puis il y a une personne chargée de gros bon sens qui te pogne par les poignets, qui essaye de te faire monter, qui te fait tomber. Le gros bon sens, des fois, ça prend aussi une formation, puis ça prend surtout du matériel. Ce qui semblait manquer, donc, à l'Hôtel Dieu, content de savoir que je pense celui de Québec va déménager pour devenir autre chose, là, mais ce qu'il raconte là-dedans, là, c'est comment admettre quelqu'un à l'hôpital et s'assurer très rapidement qu'il ait envie d'en partir et de deux, qu'il en reparte avec plus de problèmes bientôt qu'en rentrant.
Je voulais l'avoir pour aujourd'hui, ce garçon-là. Par contre, là, c'est bien qu'on en parle un peu ensemble, mais j'ai eu ses coordonnées en fin d'après-midi. Donc, on va possiblement être en mesure de lui parler la semaine prochaine.
Écoute, je rentrerai alors pas trop dans le détail, mais j'avoue que c'est assez particulier le manque, je dirais, il y a un manque de compétences, pas de matériel, rapidement, je pense qu'il s'est rendu compte que s'il se prenait pas en main, puis comme il disait, heureusement, sa mère était là. Parce que elle a réussi à pouvoir l'aider, donc à se mobiliser, à bouger pour éviter d'avoir donc ce qu'on appelle des plaies de pression, en essayant d'aller chercher le matériel qui permet d'éviter ces problèmes-là, trouver des oreillers, essayer de le caler, essayer tout simplement qu'il ait un service qui puisse convenir. Écoute, quand on finit avec des poches de soluté, parce qu'il y a, de ce que je comprends, pas d'oreiller. Il est poli, il dit dans un hôpital d'un autre pays, moi, c'est quoi, ça ressemble à de la médecine de guerre, là. Je veux dire, on est vraiment à caler quelqu'un, c'est incroyable.
Moi, mon questionnement dans tout ça, là, OK, c'est l'enfer ce qu'il a vécu, mais mon questionnement dans tout ça, c'est qu'il ne demeurait pas à Lévis directement, il restait comme entre Montmagny et Lévis. Qu'est-ce qui a fait que les ambulanciers ont décidé ou en tout cas l'ont amené à Lévis versus l'autre côté où ils voulaient aller? C'est là qu'ils voulaient aller. Ils voulaient aller à Montmagny, puis les ambulanciers ont dit non, on t'en va à Lévis.
Mais là, c'est intéressant. Moi, ça me rappelle une histoire, celle de Yvan Tremblay, mort à Green Bay en septembre 2014, la réponse du CIUS. Il faut se rappeler, Yvan, il avait mis fin à ses jours parce qu'en fait, on proposait de tout simplement le déménager en CHSLD. Il était prêt à tous les accommodements. Mais je voulais juste la réponse du CIUS. L'établissement ne commande pas de cas particuliers. Les employés des urgences sont formés pour ce type de pathologie. Ils ont toute la formation nécessaire afin d'offrir des soins de qualité et la mobilisation des usagers dans cette situation, c'est-à-dire demander à sa mère, puis caler la tête avec des poches de soluté. Il y a deux civières équipées pour ces patients et il y a un rappel qui a été fait à la mi-septembre. Et pour la procédure de transport vers un hôpital ou un autre, les critères sont entre autres la distance de l'hôpital receveur, apparemment c'était la même chose, les missions de l'établissement, mais il y en a un qui était spécialisé pour pouvoir accueillir cette personne, et ses ressources disponibles, ainsi que la gestion efficiente des services ambulanciers. Donc, comme il n'y avait pas de ressources, que l'hôpital où ils étaient bien formés, où il y avait le matos, c'était l'autre, j'en déduis que c'est peut-être un problème d'ambulance. Rappelons-nous tous les problèmes qui ont été dénoncés avant l'élection, notamment en lien avec M. le ministre Bonnardel, qui, heureusement, maintenant, est à la sécurité publique, où au moins, il ne pourra plus s'occuper ni de ce dossier, ni de celui du transport adapté.
Tu dis heureusement. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? On le verra dans les prochains mois.
Comme disait l'autre, on reconnaît le bonheur au bruit qui fait en claquant la porte.
Eh bien, hey, merci beaucoup aujourd'hui, Olivier, d'avoir été là un peu plus longtemps qu'à l'habitude, étant donné qu'on a eu des petits soucis avec notre invité qui devait être là à 16h20. Là-dessus, je te fais une bonne semaine, puis on se reparle.
Bye-bye!
Bye-bye! C'était donc Olivier Colondéran, pardon, avec la chronique L'actualité des Capés. Maintenant, on jase avec Martin Lalonde, qui est de Ex-Éco. Je vais vous le présenter de façon officielle et avec les bons termes. Il est donc agent de défense collective des droits, porteur de dossier habitation et vie municipale pour Ex-Éco. Bonjour Martin, vous allez bien?
Oui, ça va bien.
Good. Il est sorti dans le journal cette semaine un texte sur la politique métropolitaine d'habitation et ça vous a fait réagir, vous, chez Ex-Éco. Tout d'abord, avant qu'on se place comme faux, Ex-Éco, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites?
Oui. Donc, Ex-Éco est un organisme de défense et de promotion des droits des personnes ayant une déficience motrice, donc des personnes à mobilité réduite. C'est un organisme montréalais. Notre mission est régionale. Donc, c'est Montréal. C'est un organisme qui existe depuis 40 ans. Et nous, on fonctionne beaucoup par comité. Donc, pour chacune des thématiques, il y a des comités qui existent dans lesquels les membres s'impliquent. Donc, une personne qui est membre d'Ex-Éco peut s'impliquer dans les comités qu'il souhaite selon les thématiques qui les intéressent plus particulièrement. C'est ça. Moi, je m'occupe du comité habitation et du comité Montréal accessible. J'ai les deux dossiers. Il y a les deux comités qui existent, mais mes collègues ont aussi un comité sur le transport, pour la question du transport adapté, les questions de parentalité pour les personnes en situation de handicap. Et il y a le santé, ça fait ce souci, c'est un de mes collègues qui s'en occupe.
Pour les gens de Québec, je sais qu'on est écouté partout dans la province et même ailleurs, mais pour les gens de Québec, prenez le CAPVI, prenez le Carrefour familial des personnes handicapées, mixez-moi ça ensemble, ça donne Ex-Éco, à peu près. Là. C'est large comme comparaison, là, mais à peu près. Mais là, on va tout de suite y aller avec notre sujet de base, cette fameuse politique d'habitation. C'est quoi, en quoi ça concerne? Qu'est-ce que c'est que cette politique-là que la Ville de Montréal a mis sur pied?
En fait, c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça concerne les 82 municipalités de la région de Montréal. Donc, en termes de population, c'est plus que la moitié du Québec. En tant que tel que ça concerne, il y a eu des consultations publiques qui ont été faites cet été, en plein été, à laquelle, nous, on a participé. Dans le fond, on a déposé un mémoire, le comité habitation d'Ex-Éco. Et Ex-Éco, notre objectif, c'est de combattre la discrimination systémique que vivent les personnes à mobilité réduite en promouvant le principe de l'accessibilité universelle. Nous, on considère que t'sais, moi puis mes collègues Ex-Éco, il y a des personnes qui se déplacent avec des aides à la mobilité, d'autres non. On gagne tous le même salaire, on paye tous les mêmes taxes, on paye tous les mêmes impôts. Nous, on considère que quand il y a des fonds publics qui servent à construire des environnements ou des infrastructures qu'une partie de la population ne peut pas utiliser, pour nous, il s'agit de discrimination systémique. Donc, c'est ce que nous, on souhaite combattre. En habitation, nous, justement, il y a plusieurs enjeux. On a traité de la question d'abordabilité aussi des logements qui devient très problématique. Il y a des enjeux c'est très difficile pour les personnes à mobilité réduite. La crise du logement, c'est une situation qui est permanente. C'est vraiment très difficile de trouver des logements qui sont accessibles et adaptables aux besoins d'une personne. En fait, il y a beaucoup, surtout, soit les logements sociaux, mais ça prend plusieurs années avant d'en obtenir, ou souvent, ça va être des résidences privées qui vont coûter excessivement cher. Donc, il n'y a pas beaucoup de logements entre les deux. Oui.
Puis, ça me fait penser à quelque chose. Les logements qui se construisent, tout ça, au fil des ans, sont très peu accessibles, sont très peu adaptés. Mais je pense qu'une des choses que vous voulez vous revendiquer chez Execo, puis il y en a sûrement ailleurs qui font la même revendication, c'est que ces logements-là soient adaptables.
Oui.
Puis comment on pourrait expliquer l'adaptabilité d'un logement, mettons?
OK. Dans le fond, il y a eu des gains dans le code de construction en termes de ce qu'on appelle l'accessibilité minimale. Donc, à partir du moment où il y a un certain nombre d'étages, il doit y avoir un ascenseur, il y a un parcours sans obstacle pour s'y rendre. Un logement qui est minimalement accessible va pouvoir être visité par une personne à mobilité réduite, mais elle ne pourra pas y habiter. Par exemple, avoir accès aux pièces communes, à une toilette, mais pas nécessairement une salle de bain. Et pas nécessairement aux chambres non plus. Dans le code de construction, il y a aussi ce qu'on appelle l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça va un peu plus loin. Il doit y avoir une salle de bain qui est accessible et au moins une chambre. Nous, on considère que tant qu'à avoir une chambre, toutes les chambres devraient l'être parce que pour les personnes qui ont des enfants, c'est un peu bête de ne pas pouvoir entrer dans la chambre de ses enfants et pouvoir juste accéder à une pièce. Donc, c'est des améliorations, entre autres, qu'on aimerait voir dans le code de construction. Les logements qui sont adaptables, c'est que ça va déjà être prévu à l'avance. En fait, c'est des logements qui répondent aux besoins évolutifs des ménages. Donc, à l'heure actuelle, tu n'as pas besoin d'une barre d'appui dans ta salle de bain, tu ne l'installes pas, mais ça va déjà être prévu au moment de la construction qu'il y ait le fond de clouage. Donc, le jour où la personne va en avoir besoin, ça ne sera pas nécessaire de détruire un mur, installer un fond de clouage, reconstruire le mur pour ensuite placer une barre d'appui. Ça va être déjà là. Puis en fait, c'est justement quand les adaptations sont faites après coup que ça coûte cher, parce que si on le fait dès la conception, le coût n'est pas tellement élevé pour construire des logements adaptables. Il y a aussi la grandeur. Par exemple, la salle de bain doit avoir une grandeur minimale pour qu'une personne qui utilise une aide à la mobilité puisse l'utiliser aussi. Donc, c'est des critères qui existent déjà dans le code de construction, mais qui sont sur une base volontaire. Sauf dans les programmes pour logements sociaux, qu'il y a un pourcentage qui doivent l'être. Et en fait, au cours des précédentes années, il y avait eu des gains qui avaient été faits dans le programme Accès Logis. Donc, par exemple, à Montréal, lorsque des logements sociaux qui étaient construits par Accès Logis, il y avait au moins 30 % des logements qui devaient être accessibles et adaptables. Par contre, depuis les dernières années, il n'y a pas eu d'investissement dans le programme Accès Logis. Et il y a un nouveau programme qui a été créé, le programme d'habitation abordable Québec, dans lequel tous les gains qui avaient été faits dans Accès Logis n'ont pas suivi. Donc, dans le FAC, c'est retombé à 10 % des logements qui doivent être accessibles et adaptables. Donc, adaptable, ça veut dire habitable par une personne à mobilité réduite. C'est le critère d'adaptabilité. Et ça, c'est dans un contexte où c'est déjà particulièrement difficile pour les gens de trouver un logement. Et la situation va exploser avec le vieillissement de la population. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir des besoins de logements qui sont accessibles et adaptables. Donc, ce que ça crée déjà actuellement, c'est que les personnes se retrouvent dans des positions de ce que nous, on appelle des situations de vulnérabilité. Des personnes, beaucoup de nos membres, par exemple, vont pas oser contester une augmentation abusive de loyer parce qu'on part et on part par exemple que s'ils ont besoin d'adaptation il y a l'enjeu du programme d'adaptation à domicile aussi qu'on pourrait discuter peut-être une autre fois, mais le propriétaire, par exemple, refuse qu'elle ait les adaptations qu'elle a besoin ou que les propriétaires tentent de faire perdre le logement, un locataire. Il y a beaucoup de gens, comme c'est vraiment difficile à trouver des logements qui répondent à leurs besoins, ils vont soit accepter des demandes abusives de la part du propriétaire, ou on a des personnes aussi qui vont retourner vivre dans des milieux où ils ont subi de la violence, par exemple la violence conjugale. Donc, il y a des personnes qui, parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, parce que si on veut avoir un logement social ou un logement coopératif ou communautaire, ben, ça va prendre des années. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces années-là? Les gens continuent à habiter dans des endroits qui sont dangereux. Donc, c'est ça. Il y a des personnes qui vont continuer à vivre, par exemple, rester dans un endroit où subissent la violence. Et sinon, ben, il y a des personnes... puis, en fait, ça, c'est une statistique que j'ai vue récemment. Comme les gens continuent à habiter dans des logements qui ne sont pas adaptés à leurs besoins, ben, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se blessent. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, dans le fond, les chutes causées par les blessures, il y a 10 ou 15 ans, ça coûtait environ 2 milliards de dollars par année au Canada pour simplement les hospitalisations pour les personnes de 65 ans et plus qui se blessent suite à une chute. Et la moitié des chutes ont lieu à l'intérieur du domicile. C'était 2 milliards il y a 10 ou 15 ans. On est rendu à environ 5 milliards de dollars en ce moment de frais d'hospitalisation pour des blessures causées par les chutes. Et avec le vieillissement de la population, si on n'agit pas maintenant pour construire des logements qui sont accessibles et adaptables, ben ça va exploser. C'est nos hôpitaux qui vont déborder. Ben en fait, ça déborde déjà, mais ça va juste empirer. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on cesse de construire des logements dans lesquels les gens se blessent. Et c'est pour ça que nous, on revendique que tous les nouveaux logements répondent aux critères de l'accessibilité et de l'adaptabilité. Et,
dans le fond, non, allez-y, je vous laisse aller.
OK, c'est bon. Donc, dans le fond, c'est ça, nous, on a fait des représentations, puisqu'il y a des consultations publiques pour l'adoption d'une première politique métropolitaine d'habitation. C'est sorti la semaine dernière. Et effectivement, les principes, les arguments qu'on avance ont été repris dans la politique. Donc, ça reste des principes. Maintenant... ce qu'on espère de voir, c'est les mesures concrètes pour le mettre en application. Mais ça a quand même un point important que le principe que les logements doivent être universellement accessibles et adaptables, surtout dans une politique qui a été adoptée par 82 municipalités, ben ça va quand même permettre d'aller de l'avant, à notre avis. Mais en même temps, donc une des pistes qui est dans cette politique-là, c'est que la communauté métropolitaine de Montréal va faire des représentations auprès du gouvernement pour modifier les normes de construction. Donc ça, on est très favorable. Par contre, et puis c'est notre objectif à nous, que pour tout le Québec, il y a une amélioration des normes de construction dans le code pour avoir des meilleures exigences en termes d'accessibilité et d'adaptabilité, fait que c'est notre objectif. Par contre, les municipalités ont déjà le pouvoir de le faire eux-mêmes de leur côté. Donc, on appellerait aussi les municipalités. Les principes sont maintenant dans la politique. C'est le temps de les appliquer. Nous, effectivement, on va tenter de convaincre les gouvernements du Québec et tout le monde qui va nous appuyer, tant mieux. D'avoir l'appui de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est une excellente chose. Mais en même temps, les municipalités peuvent commencer dès maintenant à le faire. Et pour nous, ne pas le faire va coûter beaucoup plus cher à la société.
Vous l'avez dit, ça, c'est une politique qui est pour Montréal. Est-ce que vous êtes aussi... un organisme régional. Mais est-ce que, j'imagine que vous avez des contacts avec d'autres endroits au Québec, d'autres villes, est-ce que vous pensez que ce genre de politique-là pourrait se retrouver dans une autre ville ou si c'est vraiment conçu montréalais, disons ça comme ça?
Ben nous, les principes de l'accessibilité universelle qu'on défend, ça a comme objectif de combattre la discrimination systémique que les personnes subissent. Nous, effectivement, on inviterait... en fait, le gouvernement du Québec a adopté les mêmes principes, c'est ce que l'on souhaiterait. Et mais oui, dans le fond, je crois que toutes les, en fait, le vieillissement de la population est même moins élevé à Montréal que dans le reste du Québec.
Pour, qu'est-ce qui, selon vous, explique ça?
Ben, en fait, Montréal est la seule région du Québec où il y a un bilan migratoire négatif. Dans le fond, il y a plus de gens qui quittent Montréal vers les régions que l'inverse, ce qui est compensé par l'immigration. Ben souvent, quand des personnes immigrent au Québec, les premières années vont habiter à Montréal et parfois, ils vont quitter ensuite vers les autres régions. Donc, c'est une des raisons pourquoi le vieillissement de la population est plus élevé dans le reste du Québec, mais il reste que... dans la région de Montréal, 45% de l'augmentation de la population va être chez les personnes de 75 ans et plus d'ici 2040. Donc, même à Montréal, c'est un enjeu qui va être majeur, mais dans le reste du Québec, les mêmes problématiques vont se retrouver aussi.
Donc, ça va être à surveiller dans les prochaines années que cette politique-là et ainsi le fait que éventuellement on pourrait avoir devoir vivre une telle politique dans d'autres régions du Québec. On voit, en fait, vous ne voyez pas, monsieur Lalonde, mais on a eu un commentaire de Linda Gauthier, que vous connaissez sûrement. C'est l'article 183 de la loi sur le bâtiment. Est-ce que cet article-là vous dit quelque chose?
Je connais pas les articles par cœur selon le numéro, là. 183 de la loi. Ça serait... Non, vite, comme ça, ça ne me dit rien.
Excusez pour ceux qui nous regardent. J'ai des petits soucis, encore une fois, avec certains invités. On s'excuse de ça, malheureusement. Donc, je viens de faire un petit test pour voir si ça fonctionnait. Pour ceux qui nous regardaient sur Facebook, c'est arrivé. Ceux qui nous écoutent à la radio ou via n'importe quel streaming possible, vous n'avez pas vu ça. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, M. Lalonde, sur cette politique-là ou des choses que vous voudriez parler, que Execo fait dans son day-to-day, mettons?
Oui. L'année 2023, ça va être beaucoup sur cette thématique-là. Dans le fond, on travaille en partenariat avec Société Logique, qui est un organisme, c'est des ingénieurs et des architectes qui sont spécialisés en accessibilité universelle. On a lancé un projet de recherche et de mobilisation sur cette question-là. Puis l'objectif, c'est de convaincre, mobiliser la population sur cet enjeu-là pour entre autres, en arrivée, notre objectif, ça serait de modifier les normes de construction pour que tous les nouveaux logements soient universellement accessibles et adaptables, pour que tout le monde puisse avoir les mêmes choix en matière de logement. Donc, ça va être... on travaille aussi avec des groupes d'autres régions, comme le Cap-Vie, qui va nous conseiller sur ce projet-là. C'est à suivre. C'est un dossier. Nous, on est de voir que la communauté métropolitaine de Montréal ont adopté nos principes. On est très heureux. Mais ça va être à faire le suivi. Et effectivement, les municipalités, je viens de voir le commentaire aussi de Linda Gauthier. Effectivement, les municipalités ont déjà le pouvoir de le faire. Donc, comme j'ai dit précédemment, on est content que la CMM entend faire des représentations auprès des gouvernements pour modifier les normes de construction, mais on les invite à aller de l'avant dès maintenant parce que le logement, la construction, ça prend des années souvent. Si on n'agit pas maintenant, dans les prochaines décennies, on va se retrouver avec beaucoup de gens, énormément de gens qui vont habiter dans des logements qui répondent pas à leurs besoins et toutes les conséquences qui s'en suivent, la pression sur le système de santé parce que les gens vont se blesser dans des logements inadéquats, ça va être une situation qui va être excessivement grave.
Mm-hmm. Monsieur Martin Lalonde d'Execo, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour discuter ensemble aujourd'hui. Il me fait plaisir de... S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas. Même ce dossier-là, ça, c'est un dossier intéressant parce que là, il est montréalais, mais il pourrait peut-être éventuellement devenir provincial. Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là par le biais de votre organisme.
Super. C'est notre objectif que ça s'étende au reste du Québec aussi.
Bonne fin de journée, puis on se reparle éventuellement.
Super, merci.
Merci, bye-bye.
Au revoir.
C'était Martin Lalonde de Execuo. Eh bien, malheureusement, on a encore énormément, on a certains petits pépins aujourd'hui pour ce qui est des invités. Donc, ben, Steven essaie de... En fait, il est techniquement branché, il nous voit et tout, mais malheureusement, on n'est pas capable pour l'instant de l'accueillir à l'émission. Je sais pas, je sais que Linda est à l'écoute de l'émission. Je sais pas si elle est en mesure de pouvoir se brancher. Si je lui fournis le lien, peut-être qu'elle pourra me répondre. Mais c'est un peu décevant qu'on n'ait pas pu, qu'on ait de la difficulté avec Steven, la période du réplique, parce que c'est un sujet choquant, je vous dirais, dans la mesure où je dis choquant, c'est non, effectivement, c'est pas le bon terme. Je pense que le bon terme serait plus angoissant. Parce que dès qu'on arrive dans un avion, que ce soit pour une courte distance ou une plus petite distance, eh bien, le fait de savoir que notre fauteuil roulant ou notre aide à la mobilité sera peut-être défectueux à destination, ben c'est un stress. Bon, plusieurs personnes peuvent être stressées à voyager. Et donc, en ajoutant ce stress-là, ben ça rend le début de voyage, le départ du voyage ou l'arrivée, c'est selon, un peu plus stressant que la normale. Donc, et j'aurais aimé pouvoir questionner Steven là-dessus, mais on dirait que c'est ciblé par certaines compagnies d'aviation. On dirait que c'est pas tout, à moins que ce soit seulement que certaines compagnies qui sont, j'allais dire, plus ciblées, donc qui brisent plus les aides à la mobilité que d'autres. Donc, si eux en font plus, donc c'est normal qu'on en parle plus. Mais c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Le train, on n'a pas de problème. La majorité du temps, on peut carrément rester dans notre aide à mobilité, principalement fauteuil roulant, je vous dirais. Le bateau, c'est archi accessible. La voiture, quand on a notre propre voiture, ça va. Mais l'avion, je veux dire, il y a peut-être une sensibilisation à faire qui n'est pas là. Malheureusement, auprès de certains employés, est-ce que c'est la faute de l'employé qui est mal qui est mal formé? Est-ce que c'est la compagnie qui forme mal? Est-ce que c'est le gars qui est formé mais qui ne retient pas? Il fait un peu machinalement, un peu tout croche. Je veux dire, c'est un peu difficile de savoir d'où vient cette problématique-là. On s'entend que c'est une chaîne à quelque part. T'sais, on achète nos billets, on veut partir, on débarque de notre aide à la mobilité. Elle part pour la soute à bagages, tout ça. Donc, c'est une chaîne. Mais moi, visiblement, le fait que les fauteuils arrivent brisés à destination, dans la chaîne, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Mais c'est de trouver... Qui n'a pas fait sa job là-dedans? J'ai exprimé mon avis, tout ça. Puis Linda vient de dire quelque chose de très important, oui, effectivement, qu'on va refaire des tests avec Steven et Linda pour la semaine prochaine. On va vraiment les accueillir. On va vraiment tout faire pour que ce dossier-là soit vraiment creusé. Parce que c'est très important qu'on puisse voyager mentalement, sécuritairement, je vous dirais. Puis aussi, tu sais, si l'aide à la mobilité est correcte quand on part de notre domicile, on arrive à destination, peu importe dans le sud, en Europe et tout, et que l'aide à la mobilité est brisée, ben on passe un mauvais voyage. Il y a eu plein d'exemples aussi. Donc, mais effectivement que... Linda m'écrit qu'ils sont sur le comité consultatif de l'OTC. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir jaser avec eux. Donc, on va remettre cette discussion-là à la semaine prochaine. étant donné qu'on a des petits soucis techniques. Eh bien, on va déjà, malheureusement, clore l'émission, étant donné qu'on a un petit souci technique avec Steven Laperrière. J'espère que vous avez apprécié ces minutes avec moi et tous les invités que j'ai reçus aujourd'hui. On va se croiser les doigts pour que tout le technique fonctionne la semaine prochaine. Donc, c'est un rendez-vous mercredi prochain à 16h sur CKIA FM, sur la page Facebook des KP au KP.org. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour, entre autres, ce sujet-là et peut-être aussi un autre sujet là, dont Olivier a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler, tout ça. Tout est en place pour me suggérer des sujets, par exemple. Donc, bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.
Comme tout débute dans l'imparfait, il ne faut pas attendre les grands festivals. Trouver comment se délivrer de ce qui se passe ailleurs. Dans mes écouteurs, le DJ spin des chansons de moins en moins tristes. Faut inventer la fête que ta danse seule. Des milliers de choses à crier qui me contournent depuis quelques heures. Vouloir entendre le claquement des bouteilles. Je cherche à me poser la tête. Mes vertiges n'ont pas tous des falaises. Étendu dans l'espoir de la fête. Je manquerai.
Écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Oh non, j'ai encore oublié mon lunch.
Oh ben, profitez-en pour aller faire un tour au Haricot Magique.
Ben, c'est pas une épicerie en vrac, ça.
Oui, mais il y a aussi du super bon prêt à manger.
Ouais, mais tu sais, je mange pas de sandwich au jambon, moi.
Faites-en pas, c'est délicieux, varié, vegan ou végé, et c'est super abordable. Essaie-le, tu vas avoir le goût d'oublier ton lunch plus souvent.
Le Haricot Magique, 506 rue Saint-François-Est, haricotmagique.ca.
Oyez, oyez, une émission arrive sur les ondes de CKIA FM. Un vendredi sur deux à 11h, Artologie t'emmène en voyage dans les arcanes du monde merveilleusement mystérieux des arts visuels. Tu aimes les arts? Écoute Artologie. Tu n'y connais rien en art? Raison de plus, écoute Artologie. C'est présenté par Sarah Tongondo et son équipe enflammée. Rendez-vous les vendredis 11h sur CKIA FM 88.3 pour les artologues en chef et en herbe.
Aux quatre coins du rock. Explorer les différentes tangentes du rock'n'roll. Les mercredis soirs, de 21h à 22h, aux quatre coins du rock. Écoutez Entrée de secours chaque jeudi dès 16h. En plus des actualités musicales de la ville de Québec, découvrez les dernières sorties. Entrée de secours, c'est le moyen de sortir de sa bulle. À travers les inspirations de votre animateur, passez du contemporain au hip-hop comme de l'électro à l'indie rock. Entrée de secours, votre heure de répit hebdomadaire sur les ondes de CKIA 88.3.
Aujourd'hui, Café Sobab propose une publicité sans musique. On fait une publicité a cappella. Ben oui, c'est parce qu'on veut présenter un assemblage de café spécial, original et très en demande. Un mélange composé de 8 types de grains de café. On l'appelle l'a cappella. Avec ça, pas besoin de musique pour démarrer.